La matinale, invité.
C'est un passage de témoin comme on n'en voit pas souvent. Jean-Michel Piguet vit ses derniers jours en tant que conservateur adjoint du Musée international d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. Il y aura passé 40 ans. Nathalie Marielloni lui succède.
Jean-Michel Piguet qui nous fait l'honneur d'être dans nos studios ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous quittez vos fonctions dans quelques jours. Un petit pincement au cœur ?
Évidemment, parce que ça fait une longue période quand même que je suis dans ce musée. Mais c'est aussi un plaisir parce que c'est l'occasion aussi de faire d'autres choses finalement.
On vous a décrit comme la mémoire vivante du MIH. Vous adhérez à cette définition ?
Évidemment, parce que en passant beaucoup de temps dans ces collections, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de choses et puis ça reste un peu imprimé dans mon cerveau, c'est vrai. Mais la mémoire vivante, elle se transmet, évidemment. Hein, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui va me remplacer. Et puis, c'est un plaisir, finalement.
Les collections du Musée international d'horlogerie, vous les avez constituées en partie, vous les avez supervisées tout au long de votre carrière. Vous les connaissez mieux que n'importe qui ?
Je crois qu'on peut dire ça, oui, en passant tout ce temps-là. C'est vrai que quand je suis arrivé au musée, il y avait déjà une collection qui était déjà très importante, mais au fil des années, durant pas tout à fait 40 ans, parce qu'au début j'étais plutôt dans l'atelier du musée, mais presque une trentaine d'années où j'ai eu l'occasion de compléter ces collections par des achats ou de recevoir des dons importants par des privés aussi.
Alors, vous êtes resté en place. Par contre, l'équipe autour de vous a changé. Vous avez travaillé avec Catherine Cardinal, puis ensuite avec Ludwig Huxley, Nicole Bossart, et puis enfin avec Régis Huguenin. Est-ce que votre rôle à vous a évolué ? Vous avez chaque fois dû retrouver votre place ?
Alors, je crois que c'était une chance pour le musée d'avoir chaque fois des binômes avec des spécialités différentes. Moi, j'ai une formation technique, et puis avec les personnes que vous avez citées, qui avaient plutôt une formation universitaire ou d'historien, on formait une équipe assez je pense, efficace pour maîtriser ces domaines de l'horlogerie, qui est quand même assez vaste.
Vous étiez complémentaire, mais est-ce que vous parliez toujours le même langage ?
Ben, je crois que j'ai eu de la chance, hein. J'ai côtoyé des personnes avec qui ça a bien fonctionné. C'est toujours des bons souvenirs, oui.
Vous avez passé donc toute votre carrière professionnelle au Musée international d'horlogerie. Est-ce que vous avez parfois eu la tentation d'aller voir ailleurs ?
Évidemment. Évidemment, je vous dirais pas où, mais finalement, moi j'ai été engagé au départ par l'école d'horlogerie, donc j'ai pratiquement presque changé de métier durant ces 40 ans. J'ai passé 10 ans comme maître de pratique engagé par l'école d'horlogerie, mais dans l'atelier du musée. Et puis en 1988, j'ai décidé un peu de changer d'orientation pour me diriger plus vers l'activité musée. Donc voilà, c'est un parcours qui n'est pas uniforme et monotone, disons.
Vous avez fait plusieurs métiers tout au long de cette carrière au MIH.
Exactement, oui.
La matinale, invité.
De retour avec notre invité Jean-Michel Piguet, conservateur adjoint du Musée international d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. Vous l'avez dit, vous avez une formation d'horloger, une formation technique. Qu'est-ce qui vous a intéressé à l'origine dans cette voie, dans l'horlogerie ?
Alors déjà, l'école d'horlogerie, c'est la découverte de pièces plus anciennes m'a fasciné. Et je crois que c'est déjà là que j'ai vraiment senti que c'était la voie qui m'intéressait.
L'intérieur des montres, bien sûr, quand on est horloger, oui. On les connaît. Mais également la diversité des montres que vous avez explorées à travers votre carrière.
Alors c'est vrai que l'histoire de l'horlogerie représente plus de 600 ans hein, d'horlogerie mécanique. Donc il y a une diversité, une richesse. Technique et décorative, bien sûr, mais pour moi, c'était surtout l'aspect technique qui m'a vraiment intéressé. Oui.
Pour une ville comme La Chaux-de-Fonds, c'est essentiel d'avoir un musée international d'horlogerie ?
Évidemment, La Chaux-de-Fonds est considérée comme la métropole horlogère depuis longtemps, hein, depuis le début du XXe siècle. Et ce musée représente quand même quelque chose d'important pour la ville qui s'est développée avec cette industrie, oui.
C'est une responsabilité que vous avez ressentie dans vos fonctions ?
Je pense que c'est plutôt le rôle du conservateur à ce moment-là, mais évidemment, comme on était très proches et associés, bien sûr que je m'associais aussi à ça, oui.
Oui. Quand on reste aussi longtemps dans un rôle, dans les coulisses d'une institution qui a cette importance, est-ce qu'on ressent un sentiment de propriété vis-à-vis du MIH en l'occurrence?
On ne devrait pas. On ne devrait pas parce que ces collections sont publiques. On est au service en fait de ces collections, mais quelquefois peut-être. On est fiers de pouvoir travailler dans ce domaine-là, oui.
Alors, des sujets de fierté, par exemple, au long de votre carrière, est-ce qu'il y a des moments, des phases, des projets qui ont particulièrement marqué votre mémoire?
Ah, il y en a beaucoup, hein, toute cette période-là, il y en a beaucoup. Mais je pense qu'à chaque exposition qu'on a pu monter, c'est vraiment à chaque fois une découverte, un plaisir aussi de faire quelque chose de nouveau. Et puis, je pense que le moment le plus fort que j'ai vécu, c'est qu'on avait, dans les années 2000, participé à une exposition montée par une grande maison genevoise dans les pays arabes, en particulier à Abu Dhabi. Et là, c'était vraiment une découverte pour moi très intéressante.
Vous avez également chapeauté des expositions, des livres également d'exposition, un rôle un petit peu différent. C'est une sensation tout à fait particulière de laisser son nom sur un livre, sur l'horlogerie.
Oui, évidemment, mais moi je me suis toujours attaché au côté technique dans ces livres, en particulier pour le catalogue du musée que j'ai réalisé avec Catherine Cardinal, et des catalogues d'exposition où on a vraiment partagé le travail entre l'aspect historique et l'aspect technique, justement.
Jean-Michel Piguet, votre succession paraît impossible. Comment elle a été mise en œuvre?
Ah, mais rien n'est impossible, personne n'est irremplaçable. Moi, j'ai eu la chance de rester longtemps dans cette institution et d'acquérir ces connaissances au fil du temps, finalement. Et je pense que Nathalie va suivre un peu la même filière, j'imagine. Ça sera un petit peu difficile au début, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais je pense que tout va très bien aller pour elle.
Nathalie Marilloni, donc, est-ce qu'elle est condamnée à réinventer son rôle par rapport à celui qui a été le vôtre?
Non, je crois pas, ça sera une continuité, parce qu'elle a aussi une formation qui lui permet d'assumer toutes ses fonctions. Je me fais pas de soucis pour elle, en tout cas pas.
Est-ce que vous lui avez laissé un conseil, une recommandation, un souhait?
On a la chance, parce qu'elle a la possibilité de venir un petit peu avant que je parte, donc on a déjà partagé quelques heures de travail ensemble, et voilà, je lui souhaite tout ce qu'elle peut, tout de bon pour la suite, disons.
C'est également ce qu'on vous souhaite, Jean-Michel Piguet. Merci d'avoir été notre invité.
Merci, bonne journée.